Bien. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Tassy, qui est professeur juste à côté, là, au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, et qui est un spécialiste, le spécialiste des proboscidiens. Vous allez voir que c'est un groupe qui est aussi intéressant en termes de biogéographie. Et puis en plus, c'est quand même un groupe ancien, parce que vous voyez, à côté de nous, il a quand même une histoire un peu plus longue. Pascal, c'est à toi.
Merci Michel. Ok. Bien, je vais essayer de vous raconter rapidement une longue histoire en insistant sur ce que l'on ne sait pas, parce que plus on a des éléments pour comprendre l'histoire d'un groupe quelconque, et les proboscidiens en particulier, et plus on peut se poser des questions pointues, et à ce moment-là, les questions pointues, pour pouvoir y répondre, on a des difficultés, donc on en demande toujours plus. Donc cette absence de réponse, la plupart du temps, est assez heuristique et nous aide à découvrir de quelle manière on va pouvoir poser les prochaines questions. Donc on essaiera de développer cette problématique tout du long, à la fois sur le problème des hiatus chronologiques et paléo-biogéographiques. Alors, aujourd'hui, les éléphants, c'est un groupe extrêmement réduit. On ne peut pas, à la limite, trouver moins en termes de biodiversité. Deux espèces, on discute actuellement s'il y a deux espèces en Afrique, mais je n'aborderai pas cette question. Donc deux espèces, une en Afrique, une en Asie. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le groupe actuel le plus proche des éléphants, c'est un groupe spécialisé, les siréniens, qui vivent dans un milieu aquatique avec une spécialisation parfaite. Donc, hiatus morphologique entre les deux groupes nous laisse penser que l'histoire elle est à la fois complexe en termes de temps d'évolution et de caractère qui permet d'expliquer la dissimilitude impressionnante entre ces deux groupes dont on dit que ce sont deux groupes frères. Alors, 60 millions d'années d'évolution, vous avez ici une carte de la colonne stratigraphique de référence avec les points sur lesquels tous les stratigraphes se sont mis d'accord l'année dernière en termes de datation relative et absolue. Donc tout se passe à la base du tertiaire, 60 millions d'années. Donc l'ancêtre commun entre les siréniens et les proboscidiens a quelque chose comme 60 millions d'années, ce qui nous amène finalement à poser le problème de l'explosion adaptative des mammifères dès la base du tertiaire. Le plus ancien représentant de ce groupe, qu'on appelle les tétitaires, c'est-à-dire l'ensemble proboscidien sirénien, c'est un proboscidien. Il a été décrit l'année dernière du genre Eritherium, à peu près 60 millions d'années d'évolution. Bon, on n'en connaît pas grand-chose malgré tout, surtout un palais fragmentaire, quelques dents. Il y a très peu de choses qui permettent de dire que c'est un parent des éléphants. Un caractère dans l'arcade zygomatique, c'est-à-dire ce qui correspond à notre pommette. Et j'y reviendrai pour une forme un peu plus éléphantine, mais à peine, dans une seconde. Alors, pour ce qui est de la phylogénie globale du groupe, ce que l'on peut voir donc, à partir de ce fossile, c'est que le hiatus concernant le groupe frère est déjà important, puisque les plus anciens siréniens connus sont un petit peu plus tardifs. Alors, il est intéressant de savoir que ce premier sirénien, premier au point de vue chronologique, c'est un animal qui a été décrit il y a quelques années à la Jamaïque. Et tous les autres, qui sont légèrement plus récents que cet animal, sont connus en Afrique du Nord, principalement. Cet animal-là, il est quadrupède, c'est-à-dire que ses membres ne sont pas transformés en nageoires, ce qui en fait le plus primitif des siréniens, donc c'est une découverte assez exceptionnelle. Et ce Cela nous pose un problème biogéographique fondamental, parce que si l'on regarde les reconstitutions de la planète aux alentours de 65-60 millions d'années, on s'aperçoit que les connexions entre la Jamaïque et l'Afrique du Nord sont pas du tout évidentes, et ce pésocyrène qui est peut-être amphibie, indiscutablement, mais donc, qu'on imagine mal traverser l'Atlantique comme ça, montre bien que s'il est à la Jamaïque, c'est un pur hasard de taphonomie, de fossilisation, d'affleurement, il existe certainement ailleurs, voire dans de très très nombreuses régions où on n'a encore jamais rien trouvé appartenant à ce groupe. Donc un véritable problème biogéographique concernant les premiers tétitaires. Alors, on revient donc maintenant sur les proboscidiens que je vais développer. Je ne vais pas vous raconter les détails d'évolution de chacun de tous ces groupes. Vous voyez qu'on a figuré l'extension stratigraphique connue en traits épais. Les en traits fins, ce sont les parentés supposés à partir de l'analyse anatomique de ces formes. On insistera évidemment sur l'origine des éléphants dans la dernière partie de la présentation, mais je voudrais vous indiquer les problèmes clés qui se posent à nous pour essayer de comprendre cette histoire d'un groupe qui est pratiquement paléontologique. Il y a à peu près maintenant 180 espèces de proboscidiens fossiles décrites par rapport aux deux actuels, et très certainement on est loin du compte en matière de diversité. Mais la diversité est déjà importante. Alors, dans les années 90, on a décrit un maxillaire qui a été trouvé au Maroc. Et ces dents, je vais vous montrer pas mal de dents. C'est vrai que les paléontologues travaillent sur les dents parce qu'elles se conservent bien, ces dents, mais ne vous en faites pas, il n'y aura pas que des dents. Mais ces molaires un peu bilophodontes, à deux crêtes, on en connaît beaucoup dans les groupes de mammifères, mais la composition de ces crêtes évoque des formes un peu plus transformées en direction des éléphants tardifs, donc il est facile d'enraciner cet animal qui a été trouvé dans les phosphates du Maroc. Au proboscidien. Quelques années plus tard, on découvre le crâne. Alors, ce crâne, c'est le plus beau des crânes de fossatérium jamais découvert. Bon, vous voyez, il est bien écrasé, mais malgré cela, on peut analyser un grand nombre de caractères morphologiques. On peut reconstituer donc la morphologie de ce crâne qui tient dans la main. Vous voyez, les éléphants ont commencé petits et ce crâne n'a rien à première vue d'éléphantin. Donc il va falloir trouver deux, trois caractères. Alors je vous ai parlé de la pommette. Alors je vais vous montrer un caractère qui existe donc depuis 55 millions d'années et un peu plus tôt, et qui n'a pas changé dans l'histoire des éléphants, quelles que soient les transformations morphologiques. Vous avez ici l'orbite qui est assez antérieure, donc au-dessus de la partie antérieure de l'arcade dentaire, les prémolaires donc, et puis l'orbite est entièrement ouverte dans l'os maxillaire, alors que chez les mammifères en général, elle est ouverte dans l'os postérieur qui est ici, qui s'appelle le jugal. Alors ce petit caractère, qui n'est pas spectaculaire, mais permet de comprendre une structure un peu différente du crâne chez ces animaux. Un autre caractère, bon, je vais vous en citer un, eh bien, la position ici de ce foramen post-glénoïdien, c'est un peu plus médial que ça devrait être par rapport à un mammifère non proboscidien. Vous voyez, ça ne tient pas à grand-chose. La reconstitution de cet animal, vous voyez, pour ceux qui connaissent les faunes d'Afrique, on se plaît à imaginer une bête qui ressemble plus à un daman, c'est-à-dire à un iracoïde, un petit animal de la taille d'une marmotte, qui est un ongulé assez paradoxal, assez primitif par certains égards, plutôt qu'un éléphant. Enfin, on l'a maintenant bien en main, cet animal, et il nous reste maintenant à découvrir le squelette. En attendant de découvrir le squelette postcrânien, voilà, je vous propose une reconstitution, un modèle en trois dimensions de cet animal qui évoque, pour les spécialistes de mammifères primitifs du tertiaire ancien, pas mal de groupes qui ont une morphologie globale assez proche de cela. Bon, là, les arcades zygomatiques sont puissantes par rapport à ces groupes-là, mais il y a très, très peu de choses d'éléphantins. Donc, retenez déjà un premier point, l'évolution, c'est ce qu'on appelle l'évolution en mosaïque. Vous avez une juxtaposition de caractères à des degrés différents d'évolution, primitifs ou dérivés, qui font que l'association, quelquefois, est très, très éloignée globalement de la morphologie des descendants ultimes. Alors, voilà la reconstitution de l'animal caché derrière des plantes du genre Typha que l'on imagine présentes il y a 50 millions d'années. Alors, on ne le voit pas bien, ben, ça tombe bien, puisque je vous ai dit qu'on ne connaît pas la silhouette du squelette postcrânien. Alors, on va continuer donc maintenant dans l'Éocène et ensuite l'Oligocène vers le rappel de quelques formes dont certaines sont connues depuis très longtemps. Meritérium, bon, ça fait plus d'un siècle qu'il est connu. C'est un animal au corps allongé qui a un mode de vie certainement fondamentalement aquatique. Donc voilà la première figuration de cet animal. Et ça a été un événement parce que c'était la première fois qu'on attribuait au groupe des éléphants un animal qui n'avait pratiquement rien d'éléphantin. La cause principale de cette hypothèse, c'était le développement des incisives, mais encore aujourd'hui, on en est à discuter de l'homologie du numéro d'ordre de l'incisive développée de ces bêtes et de l'incisive à croissance continue des éléphants. Donc un petit caractère, par exemple, à l'arrière de ces molaires, qui ressemblent à des molaires de mammifères plus ou moins généralisés, vous avez deux tubercules qui se développent, qui donc sont comme une ébauche d'une troisième crête. La silhouette que vous avez est une silhouette composite formée de plusieurs individus et elle est certainement erronée à bien des égards. Alors, on monte un petit peu à la fois dans le temps, mais aussi dans les transformations morphologiques, avec un animal qui a été décrit également au début du XXe siècle, dont pendant longtemps on s'est demandé ce qu'il avait de proboscidien. Maintenant, on connaît le squelette. Il a fallu attendre les années 2000 pour comprendre le squelette de Baryterium. Vous voyez, il est très différent d'un squelette d'éléphant. Je vous en parle parce que c'est la première invention, si j'ose dire, d'un gros animal chez les proboscidiens. Il a 2 mètres au garrot et sa posture n'a rien d'éléphantine. Donc, il est proboscidien pour certains caractères morphologiques, indiscutablement, mais il ne préfigure pas du tout le mode de locomotion éléphantin. Donc, tous ces animaux vivent à l'Éocène, donc une paléogéographie qui est assez peu différente de celle que je vous ai montrée à la limite Crétacé-Tertiaire. Vous voyez que l'Afrique est isolée du reste des continents, ce qui est une évidence pour les paléontologues depuis longtemps. Ce groupe est d'origine africaine. Mais comme les éléphants ne sont pas connus qu'en Afrique et que des fossiles ont été trouvés ultérieurement, à la fin du paléogène et au néogène, eh bien, on s'est intéressé sur les modalités justement de diversification et d'extension dans l'espace de ces groupes. Ce que l'on sait, c'est que les premiers proboscidiens se sont différenciés dans un milieu semi-aride à tropical. Mais ce sont des milieux qui sont parcourus par des fleuves et les gisements principaux sont des gisements côtiers, c'est-à-dire d'estuaires, de deltas. Et donc, même en milieu aride, semi-aride, vous avez une végétation assez dense le long des fleuves. Et on verra cette problématique tout du long qui fait que même dans un milieu globalement sec, on a une association de végétaux et d'animaux qui vit dans des milieux humides. Ça, c'est un milieu qui est très favorable pour la fossilisation, et donc on a des fossiles dans ces milieux, ce qui ne veut pas dire que les animaux ne vivent que dans ces milieux, mais en paléontologie, on fait avec ce qu'on a. On continue donc avec notre schéma qui va nous permettre d'aborder maintenant des animaux qui commencent à ressembler un peu plus aux éléphants. Certains sont connus depuis longtemps, en même temps que Meritérium et Baryterium. Andrews, qui était un Anglais du Muséum d'histoire naturelle à Londres, a publié une grande monographie en 1906 sur les animaux du Fayoum, donc un site qui est archéologique, mais qui nous intéresse, nous, paléontologues, parce qu'il est également paléontologique, un site important de l'Éocène supérieur et de l'Oligocène inférieur, c'est-à-dire du tertiaire ancien. Et Andrews a décrit Paléomastodon et Phiomia, deux genres qui commencent à ressembler à des éléphants. Alors, l'image que vous avez, c'est une image fondatrice parce que c'est la première reconstitution d'un crâne d'un Paléomastodon, mais cette reconstitution a mélangé les caractères anatomiques des deux genres. Mais on voit tout de suite un trait évident. Les fosses nasales sont reculées à proximité de l'orbite, ce qui est un caractère qui permet de dire que ces animaux avaient une trompe, mais à l'inverse des éléphants, la mâchoire inférieure est longue, c'est un dispositif unique chez les mammifères, que l'extrémité antérieure de la mâchoire inférieure, de la mandibule, se situe bien au-delà, en avant, de la, du bord antérieur du maxillaire, et en l'occurrence du prémaxillaire, qui porte une incisive à croissance continue, que l'on peut donc appeler défense. Alors, le paradoxe, c'est que ces genres qui ont été décrits depuis très longtemps, eh bien, on ne les connaît pas si bien que ça au point de vue du détail anatomique. Donc, à gauche, vous avez un crâne en vue latérale et dorsale du genre Phiomia, avec l'espèce Phiomia ceridens. Vous l'avez également au centre en vue ventrale. Mais juste à côté, vous avez le plus beau spécimen connu d'un paléomastodone, où on voit déjà très bien que le palais est beaucoup plus large, n'a pas les mêmes proportions, y compris l'arrière du crâne, les coanes, les narines internes. Mais on ne sait rien de plus du crâne de paléomastodone. On n'a jamais trouvé de paléomastodone aussi bien conservé que Phiomia, et en plus, on n'a jamais trouvé de squelette articulé en connexion de ces animaux. On peut voir que, du point de vue du museau, ces deux genres sont déjà distincts. Vous avez ici les prémolaires antérieurs qui se situent au niveau de la symphyse, c'est-à-dire de la zone de suture des deux parties droite et gauche de la mandibule, et alors que ici les prémolaires sont bien en arrière de la suture, ce qui montre bien une évolution déjà assez ancienne dans ces deux genres, limite éocène-oligocène. Bon, le milieu où vivent ces animaux qu'on appelle des éléphantiformes, c'est un milieu qui est très très comparable à ce qui se passe à l'époque éocène. Donc un milieu aride, ici se trouve le Fayoum, avec des zones luxuriantes très localisées. Ceci est important car cela nous permet d'imaginer que ces animaux vivaient en groupes pas forcément aussi nombreux et vastes que ce qu'on connaît du mode de vie d'un éléphant, un éléphant tel qu'il vivait il y a un siècle ou deux, puisqu'aujourd'hui les éléphants ne vivent pas du tout en collectivité, si j'ose dire, puisque ce sont des animaux qui ont un sens social extrêmement développé. Aujourd'hui, le mode de vie des groupes d'éléphants est quasiment artificiel, faute d'espace vital. Alors, nous arrivons maintenant au groupe qui nous intéresse, puisque les éléphants en font partie, mais vous voyez que ce qu'on appelle les éléphantimorpha, dans certaines classifications, hein, les classificateurs sont des gens redoutables, ils ont toujours plein de noms dans leur poche, et quand il en manque, il y a toujours quelqu'un qui va s'amuser à en créer, et ces noms se ressemblent très très souvent. Donc, éléphantiformes et éléphantimorphanes, ce ne sont pas les mêmes groupes. Donc, ceux-là, ce sont des animaux, disons, assez éléphantins, qu'on appelle très généralement des mastodontes. Mais les seuls vrais mastodontes, ce sont les premiers, qui sont les mammouthidés, qui n'ont rien à voir avec les mammouths, pour simplifier les choses. Et ce que l'on sait, c'est que ces quatre groupes sont bien présents et déjà différenciés à la base du Miocène, aux alentours de 20 millions d'années. Et ce qui intéresse les paléontologues, c'est justement la période qui précède, pour savoir si les caractères en commun de ces quatre grands groupes sont apparus chez un ancêtre commun exclusif ou bien sont apparus indépendamment, ce qui est la problématique générale et permanente des paléontologues, des phylogénéticiens en général. Je vais vous montrer un caractère qui est assez spectaculaire, assez original. C'est ce qu'on appelle le displacement chez les spécialistes, on pourrait dire déplacement, mais ce n'est pas tout à fait un déplacement, donc on hésite à utiliser ce terme. Vous avez ici un proboscidien généralisé, assez primitif du point de vue de sa formule dentaire. Les prémolaires et toutes les molaires sont associées dans une mâchoire en même temps, comme chez nous. Donc vous avez la dernière molaire et la première prémolaire ensemble, c'est la dent de sagesse ici. Chez les éléphantimorpha, ça ne se passe jamais comme ça. Lorsque la dernière molaire est en place, les dents antérieures ont été expulsées. Donc ici, vous avez une espèce où on voit par exemple un juvénile avec la première molaire en formation. Et c'est la dernière dentelée qui est en position antérieure sur l'arcade dentaire. Ici, vous avez un adulte, un jeune adulte mâle avec la dernière molaire qui est en formation. Vous voyez que la M1 qui était ici en arrière de l'orbite se trouve devant maintenant qui se trouve à l'avant de la, du crâne, ce qui montre bien le déplacement relatif de l'arcade dentaire par rapport au reste du crâne. Donc, l'explication, c'est un phénomène d'apposition et de résorption osseuse dans les différentes régions du crâne, et notamment des régions alvéolaires, un phénomène qui est général, mais qui est spécialement accentué au niveau des contrastes dans les zones proches où il y a ou bien de la résorption ou de la position osseuse. Donc là, on a un exemple assez impressionnant de plasticité du crâne de l'éléphant. Et vous avez ici une vieille femelle où vous avez ici maintenant la deuxième molaire qui se situe à l'avant, comme si elle avait poussé, elle ne la pousse pas, hein, la première molaire. Donc ce mouvement-là existe chez tous les proboscidiens de type éléphantimorpha depuis plus de 20 millions d'années. Alors, est-ce qu'il y a eu un mécanisme qui est responsable de cela chez l'ancêtre commun de tous ces animaux, ou bien est-il apparu plusieurs fois à partir d'une souche éléphantiforme? Voilà la question qui se pose. C'est pourquoi les paléontologues essayent de trouver des fossiles dans l'Oligocène, une période assez avare en gisements et en spécimens. Bon, au début de l'année, une publication dans le Journal of Vertebrate Paleontology, bon, une publication, si vous voulez, un peu standard, hein, c'est le travail quotidien des paléontologues. Alors pourquoi la relever, celle-là? Ben parce qu'il s'agit d'un gisement d'Afrique de l'Est, de l'Oligocène, donc ça c'est quelque chose d'assez rare, qui se situe donc dans le sud du lac Turkana. Alors, c'est une région qui est beaucoup plus connue pour ses fossiles, notamment humains, beaucoup plus récents, mais où il y a également des affleurements du tertiaire ancien. Jusqu'alors, les gisements ayant livré les plus anciens éléphantimorphas 22 millions d'années connus, hein, sont situés ici, en Kenya et en Ouganda. Donc là, on a plus vieux que ça. Donc c'est le gisement de Lokone, et qui vient après la description d'un site en Éthiopie et un autre en Érythrée. Donc vous voyez, les années 2000 commencent à nous fournir des éléments qui nous intéressent en matière d'archives anciennes concernant la mise en place des caractères modernes d'éléphants. Mais malheureusement, la plupart du temps, on a affaire à des dents isolées qui ne nous permettent pas de savoir si ce caractère-là dont je viens de vous parler, c'est-à-dire ce mouvement relatif des dents par rapport à la région osseuse alvéolaire et au reste du crâne, existe déjà ou pas. Alors, il y a un spécimen de Dogali en Érythrée, lui, permet de discuter de cette question-là. Donc, voilà. Alors, les parentés, ici, on en discutera dans une seconde, simplement... on a figuré le schéma de phylogénétique concernant les quatre groupes que je vous ai présenté rapidement tout à l'heure et qu'on détaillera. Et voici les gisements qui tombent à pic, j'ai pas pu m'en empêcher, concernant justement le site d'Érythrée, d'Éthiopie et celui du Kenya de Lokone. Donc une région clé, mais qui ne nous fournit pas encore toutes les réponses, bien entendu. Alors, l'animal d'Érythrée, eh bien, ce n'est qu'une mâchoire inférieure, et encore, elle est fortement incomplète. Donc, vous voyez, il nous faut aussi un peu imaginer comment peut être cette mâchoire. Voici, c'est un animal qui avait une M2, une deuxième molaire en état de fonctionnement. La première, elle n'est représentée que par l'alvéole, et donc elle manque. Ou bien on a les racines, hein, on ne voit pas, le spécimen est brisé. Et puis la toute dernière molaire est en fabrication, donc on l'a disséquée pour voir quelle était sa morphologie, et en même temps pour être sûr qu'on avait bien identifié la deuxième molaire. Donc elle a bien trois crêtes, la dernière en a une de plus. On a essayé de voir où se situaient ses dents. Bon, elles sont une taille intermédiaire entre les plus gros animaux du Fayoum, de l'Oligocène, ancien du Fayoum, et les plus petits du Miocène postérieur. Or, cet animal est oligocène supérieur. Donc, en fait, du point de vue de sa morphologie et de sa taille, c'est un magnifique intermédiaire entre les éléphantiformes et les éléphantimorphes. Alors, la reconstitution ici, ce n'est pas une mère avec son petit, hein, c'est un mastodonte qui a servi à Cuvier au début du 19e siècle à inventer le mot mastodonte. C'est un animal très fréquent, notamment en France, dont on dira un mot dans une seconde. Bon, voilà. Et ça, c'est la taille de l'adulte d'Érythréum ne pas confondre avec Eritherium. Hein, vous voyez comme les paléontologues sont pervers dans la manière de nommer leur taxon. Voilà, alors évidemment, on aimerait en savoir plus, mais c'est déjà bien d'avoir trouvé ce spécimen. Il serait bien hasardeux de dire, puisqu'on a trouvé cette forme intermédiaire dans l'est de l'Afrique, hein, pratiquement dans la corne de l'Afrique, c'est là que s'est passée la différenciation. Ça s'est passé certainement ailleurs aussi, mais on n'a pas trouvé les sites qui se trouvent ailleurs. Et ça s'est passé peut-être d'ailleurs même au-delà de l'Afrique. Vous avez ici les troisièmes molaires inférieures des éléphantiformes, celle d'Érythréum, qui a une crête de plus à l'arrière, et celle des plus anciens éléphantimorpha de la base du Miocène. Vous voyez une grosse différence de taille. Et les schémas de parenté sont que cet animal est présenté comme étroitement apparenté aux quatre grands groupes miocènes et avec un animal dont le nom d'espèce indique bien qu'elle nous pose des problèmes, que c'est une espèce assez obscure. Et la date de différenciation de tous ces groupes, c'est certain, c'est l'Oligocène. Est-ce que l'Afrique est le lieu de cette différenciation ? Là, le problème qui intéresse ces deux dichotomies est assez crucial. Alors, voilà le problème tel qu'il est posé. Alors, cette carte, c'est une carte géographique actuelle, hein, ce n'est pas une reconstitution paléogéographique, simplement c'est pour voir que le groupe frère du Fayoum, par exemple, Phiomia, de ce groupe-là, qui inclut les quatre principales familles, disons, pour faire simple, du Miocène, incluant les éléphants, n'implique pas que des animaux africains, puisque nous avons ici une forme qui a été trouvée en Asie, les Mimastodons crépusculi. Pendant longtemps, on ne connaît que deux molaires supérieurs pratiquement identiques de cet animal, donc trouvés au Pakistan, dans des niveaux dont on a discuté depuis quasiment un siècle, puisque cette espèce a été décrite en 1907. Est-ce qu'il s'agit du Miocène, et Miocène inférieur, Miocène moyen, ou bien Oligocène ? Et puis les travaux récents par les Français, notamment au Baloutchistan, avant que le Baloutchistan soit redevenu totalement fermé aux Occidentaux, même à certains Pakistanais, on a trouvé ce petit morceau, cette pointe de défense. Alors pourquoi c'est intéressant ? Bon, c'est pas très esthétique, ça ne dit pas grand-chose, sauf que la coupe de l'ivoire ici montre une structure entrecroisée des fibres de dentine et une structure qui est typique des éléphants. C'est même Daubenton, l'anatomiste qui travaille avec Buffon, qui est le premier dans l'histoire à décrire cette structure particulière de l'ivoire d'éléphant, qui rend à l'ivoire d'éléphant cette élasticité qui a d'ailleurs servi à fabriquer les boules de billard avant qu'on arrive à trouver des plastiques qui restituent cette élasticité-là. Donc on trouve ce caractère éléphantin partagé par tous les groupes depuis le Miocène dans une formation dont on sait maintenant qu'elle est oligocène et hors d'Afrique, ce qui montre bien qu'il y a des échanges entre l'Afrique et l'Asie dès 25 millions d'années. Ensuite, vous avez une différenciation des autres groupes et j'ai figuré ici les plus anciens représentants de chacun de ces groupes. Et donc vous voyez par exemple les mammutidés, on les connaît, les plus anciens sont effectivement connus qu'en Afrique, mais les gonfotères et les cercles blancs, quand on est à la base du Miocène, on les trouve en France, mais on les trouve du Portugal à l'Afrique du Sud jusqu'au Japon. Il y en a partout. C'est-à-dire on a une image d'une souche cosmopolite de ce groupe. Et ce groupe nous intéresse, pourquoi ? Parce que c'est dans ce groupe qu'on situe les éléphants qui se différencient plus tard. Ce qui montre bien que trouver le centre d'origine de la différenciation d'un des groupes à l'aide des sites paléontologiques est une entreprise particulièrement risquée, et moi je ne m'y risquerai pas. Donc voilà maintenant l'implication paléogéographique de ces sites. Donc au Miocène, l'Afrique est isolée, enfin la plaque, on devrait dire la plaque arabo-africaine, avec forcément, avant l'époque 17-18 millions d'années, depuis longtemps, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des échanges importants entre Afrique et Eurasie, et donc 25 millions d'années, c'est déjà très discuté, c'est toujours discuté, mais enfin bon, les données sont là. Donc il y a peut-être eu des échanges ici qui nous échappent. C'est pourquoi on aimerait effectivement avoir des sites dans ces zones-là, Arabie, la partie la plus occidentale de l'Asie, ici, dans cette zone-là, au nord de l'océan qu'on appelle la Tétis. Mais ce sont des régions qui, sur le plan politique, ne sont pas extrêmement favorables actuellement à des missions paléontologiques. Voilà, il y a toujours des problèmes. Sur une carte, c'est bien de voir où il faut aller fouiller, mais le réaliser, ce n'est pas si simple. Mais on a quand même quelques éléments de plaques arabo-africaines que je vous montrerai dans une seconde. Alors, présentation assez rapide pour vous montrer que l'évolution n'est pas allée directement vers le modèle éléphant. Il y a eu d'autres modèles, notamment des animaux, les corélophodontes, littéralement les animaux qui ont des dents qui ressemblent aux dents de cochon. Je vous en parle parce que la paléobiogéographie de ce groupe est assez singulière. Les plus anciens corélophodontes de la base du Miocène sont connus en Afrique et en Asie. Et il y a une petite expansion de ce groupe vers l'Europe, mais jamais au-delà de Skopje, donc en Macédoine, qui est l'extension la plus occidentale de ce groupe. Probablement que toute cette zone est isolée au Miocène moyen du reste de l'Europe et du reste de l'Afrique, ce qui permet des évolutions sur place, dans certains cas, de petits caractères et quelquefois le détail nous échappe sur le plan paléontologique. Alors ces animaux sont intéressants parce que leur tendance évolutive du point de vue développement du crâne est rigoureusement l'inverse de ce qu'on connaît chez les éléphants. Là, vous avez un crâne d'un gonfotère qui est un bon prototype pour fabriquer, si j'ose dire, un éléphant à partir de ce type de crâne. Là, vous avez un crâne de corélophodonte. Vous voyez, il est très allongé, puissante arcade zygomatique, mais surtout l'orbite est en arrière de la série dentaire, ce qui est tout le contraire de ce qui se passe chez les éléphants. Autrement dit, les directions de croissance de ce crâne, c'est vers le haut et l'arrière, alors que chez les éléphants, les directions de croissance sont vers le haut et l'avant. Donc c'est un modèle qui finalement a quand même relativement bien réussi, puisque les tout derniers corélophodons sont datés de à peu près 5 millions d'années, disons. C'est pas mal comme réussite depuis. Ça fait 20 millions d'années d'évolution. Et un parallélisme avec les éléphants, vous avez la disparition des incisives inférieures. Le menton a une gouttière impressionnante, mais pas d'incisif à la pointe de la mandibule. Donc, il y a 20 millions d'années, des corélophodons en Afrique, dans le sous-continent indien, et également dans cette zone-là, qui est effectivement isolée par la Tétis Nord du reste de l'Eurasie, où on trouve d'autres groupes. Alors, d'autres groupes, on va parler quand même des vrais mastodontes, les mammutidés. Donc, les plus anciens sont connus il y a 22 millions d'années en Afrique. Alors, ce groupe est tout à fait extraordinaire parce que depuis qu'il est connu, il y a une stase évolutive, c'est-à-dire une absence d'évolution, ou presque, de la morphologie des molaires. Donc, en haut, vous avez la mâchoire du plus ancien représentant de ce groupe, avec les premières, deuxième et troisième molaires. Donc, les premières et deuxièmes ont trois crêtes. On décrit ces dents comme étant de type trilophodonte, et les dernières molaires, les M3, la plupart du temps, ont une ébauche de crête supplémentaire, voire une crête supplémentaire. Vous avez des M3 supérieures un peu plus récentes, découvertes en France avec l'espèce Zygolophodon turicensis. Et puis vous avez ici une troisième molaire inférieure de l'un des plus récents du groupe, 15 000 ans. C'est d'ailleurs la toute première dent jamais décrite appartenant à ce groupe, et ça remonte au XVIIIe siècle. Autrement dit, une même type de crête. Alors il y a une crête de plus à l'arrière, mais ça c'est normal pour une troisième molaire inférieure. Bref, une stase évolutive. Or, l'environnement dans lequel vivent les premiers mammutidés, environnement tropical au Kenya, le gisement se trouve actuellement très près du lac Victoria Nyanza, jusqu'à l'environnement périglaciaire des forêts dominées par les épicéas, des mélanges de pins, d'arbres à feuilles caduques et d'épicéas, mais épicéas majoritaires dans les sites à mastodontes américains récents. Ces mastodontes américains disparaissent avec de très nombreux grands mammifères à la fin du Pléistocène, il y a 10 000 ans. Donc, malgré ces adaptations à des environnements différents, une stase évolutive sur la morphologie des molaires. Ce qui fait que cela nous oblige à réfléchir sur l'adéquation morphologie et adaptation, notamment adaptation à un mode de nourriture. Bon, ici, ce sont des animaux qui sont des mangeurs de feuilles, certainement pas des brouteurs d'herbes, mais tout de même, hein, entre l'environnement forestier d'il y a 22 millions au Kenya et l'environnement forestier du Canada et de l'Amérique du Nord il y a 20 000 ans, il y a une énorme différence. Voilà la silhouette c'est le squelette le plus célèbre d'un mastodonte américain. Il a été, lui, trouvé articulé, il y a pratiquement tout, et il ne manque que quelques pièces du sternum et quelques vertèbres caudales, 2-3 phalanges, pas plus. Sa reconstitution. Les gomphothères, le groupe souche, qui inclut les éléphants, eux connaissent une histoire parallèle, puisque les premiers se trouvent associés au plus ancien gisement à mammutidés. Mais là, l'évolution dentaire est totalement différente. Une explosion adaptative, une dynamique spectaculaire qui fait qu'au cours de l'évolution, à partir d'une molaire qui contient 4 crêtes comme une molaire de mastodonte américain, avec des tubercules plus arrondis, ça c'est la caractéristique des gomphothères, vous arrivez à une dent qui possède une vingtaine de crêtes. Autrement dit, cette partie antérieure, ici, c'est l'homologue de cette dent. Tout le reste est de ce qu'on appelle une néoformation, c'est-à-dire un développement de crêtes à partir de l'arrière de la dent. Et puis vous avez cette croissance en hauteur de la couronne. Alors, ce n'est pas une dent hypsodonte au sens qu'elle n'est pas à croissance continue, elle est très haute. Cette hauteur compense l'abrasion très très forte de cette végétation prisée par les éléphants qui n'est pas strictement liée à des végétaux tendres. Les milieux dans lesquels se développent les gomphothères et les mammutidés. Et le tempo est pratiquement le même, sauf que les mammutidés sont conservateurs, point de vue morphologique, et les gomphothères changent énormément. Donc, on a vu quelques... Je n'ai pas parlé de ce groupe-là, on ne peut pas parler de tout. Donc, on arrive maintenant à ce point-là, qui est l'ancêtre commun des gomphothères et les éléphants. Alors, on ne sait toujours pas résoudre le problème de la souche. Voilà, on sait qu'un grade évolutif, c'est-à-dire l'acquisition d'une quatrième crête sur les premières et deuxièmes molaires, est un passage obligatoire pour construire une molaire d'éléphant. Ensuite, il y a une cinquième crête. On reconnaît différents groupes qui acquièrent une cinquième crête. Et puis après, le nombre de crêtes augmente considérablement au cours des 7 derniers millions d'années. Donc avant d'aborder en détail la question des éléphants, je vous montre donc la souche cosmopolite de tout le groupe. Donc ça, c'est une dent qui a été trouvée au Japon. Cette dent a été trouvée dans le Loiret, pas très loin de Paris, donc. Vous avez ici 3 crêtes, plus une quatrième à peine ébauchée. Ça, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on connaît des l'Oligocène. Et là, vous avez une molaire assez exemplaire de ce que l'on trouve dans les sites de 15 millions d'années, surtout le continent eurasiatique. Bon, ça, c'est une molaire du sud de la France. Et donc, finalement, l'explication est simple, à comprendre. Une molaire d'éléphant, c'est le développement régulier donc, de cette partie postérieure du cingulum d'où émergent les constituants d'une crête fonctionnelle. Ça se passe, cette affaire-là, donc, bien au-delà de l'Afrique. Donc, je pense que aux alentours de 25 millions d'années, à l'Oligocène supérieur, probablement que les représentants des différents groupes sont déjà en place. Et c'est pourquoi il est intéressant d'essayer de les trouver dans les sites datés de l'Oligocène supérieur. Mais justement, on se pose à ce moment-là le problème de la réduction du nombre de caractères à disposition. Plus on s'approche de la dichotomie qui est responsable de deux groupes qui, beaucoup plus tard, sont différents, et moins on a de caractères à disposition. Problématique générale qui est particulièrement débattue lorsque on aborde des questions d'hominidés, mais c'est exactement la même pour n'importe quel groupe de vertébrés et de mammifères en l'occurrence, et c'est le même problème pour les proboscidiens et les gomphothères. Cette fois, les milieux sont variés puisqu'on trouve des sites dans des zones arides dans le sud de l'Afrique, tropicales, arides à nouveau, des zones tropicales, voire tempérées, frais ou chauds, ce qui pourrait expliquer cette diversité d'évolution chez les gomphothères, mais n'oublions pas que pour les mammutidés, qui à un moment donné, probablement vers 16 millions d'années, sont passés en utilisant l'isthme de Bering en Amérique du Nord, l'impact de l'adaptation sur la morphologie des dents a été très différent. Alors on va sauter maintenant le détail de cette évolution pour aborder l'origine des éléphants. Le grade tétralophodonte, c'est-à-dire l'acquisition au moins d'une quatrième crête sur les premières et deuxièmes molaires, est archivé chez deux groupes. Les stégodontes, les plus anciens stégodontes, c'est un genre qui s'appelle stégolophodon, et puis les gomphothères, donc le genre tétralophodon. Alors, il y a un écart assez important dans les premières dents tétralophodontes du groupe des stégodontes, qui sont connues en Asie dès 18 millions d'années, au moins, et vers 12 millions d'années en Eurasie. Donc un hiatus important qui laisserait penser que cette tétralophodontie est apparue deux fois dans l'histoire, au moins deux fois, à moins d'envisager un hiatus dans les archives paléontologique, hiatus qui pourrait être expliqué par la paléogéographie de ces animaux. Les stégodontes anciens sont tous connus en Asie, du Sud, alors que les tétralophodontes sont connus en Eurasie et en Afrique. Alors voilà à quoi ressemble un tétralophodonte du groupe des stégodontes. Les plus anciens sont en haut. Voilà la morphologie du plus primitif des stégolophodontes connus. Quatre crêtes sur la deuxième molaire. Je peux vous garantir que cette dent-là, trouvée isolée, aurait été rapportée à un grade trilophodonte, tant elle est primitive. Donc, il faut se méfier quand on travaille sur des dents isolées. Donc, ça, c'est un stégolophodon plus évolué. Et donc, vous voyez que, et là encore plus, ça, c'est une molaire supérieure, les tubercules se multiplient, les crêtes sont beaucoup plus rectilignes. Cela évoque une dent d'éléphant. Mais à l'inverse des éléphants, ces animaux garderont une couronne brachiodonte, c'est-à-dire basse. Et ce sont des animaux dont on pensait, dont on pense toujours, avec des nuances, qu'ils sont volontiers des mangeurs de feuilles, donc de paysages fermés. Mais les derniers représentants de ce groupe, comme ce stégodon chinois, miment de façon extraordinaire la posture, les proportions d'un éléphant. Donc là, c'est une espèce de Chine de la base du Pléistocène. À tel point que dans certains cas, on a pris des molaires de stégodontes pour des éléphants et inversement. Lorsqu'on a affaire à des éléphants très anciens qui n'ont pas une couronne aussi haute que la dent que je vous ai montrée tout à l'heure, eh bien, on peut avoir des difficultés. Donc, il faut analyser la forme des crêtes, l'espace, la forme de l'espace qui existe entre les crêtes pour voir si on a affaire plutôt à un type éléphantin ou plutôt à un type stégodon. Et c'est important parce que les deux groupes sont déjà en place depuis au moins 18 millions d'années. Donc, malgré cette longue histoire, on peut avoir des difficultés dans l'identification des caractères dentaires. Alors, le grade tétralophodon, donc vous voyez une première molaire trilophodonte en bas, à trois crêtes et un petit cingulum, et ici une dent tétralophodonte en haut, à quatre crêtes et un petit cingulum. Entre les crêtes, des tubercules accessoires au centre qui joueront un rôle pour l'identification des différents groupes d'éléphants. Donc, deux crânes de ces animaux-là, un crâne relativement primitif en bas, pas très très haut, avec l'orbite au-dessus de la dent la plus antérieure, deuxième, troisième molaire, et ici un crâne un peu plus évolué, un peu plus haut, avec l'orbite en avant de la deuxième molaire, redressement de la base du crâne. Donc ici, vous avez véritablement le mode de mise en place des caractères éléphantins qui font que le crâne, finalement, croît vers l'avant par résorption osseuse de la face et vers le haut, donc un dispositif tout à fait singulier dans l'organisation crânienne d'un mammifère. Alors, je vous ai parlé du cosmopolitisme ancestral du groupe des gomphothères en général à la base du Miocène. Eh bien, on a le même problème à propos des tétralophodontes. Donc, là, vous avez ici des gonfotères tétralophodontes, les plus anciens connus qu'on connaît, alors c'est les rectangles noirs, on les connaît en Afrique, en Asie et en Europe. Et d'autres tétralophodontes un peu particuliers, eux, ne sont connus que sur la plaque arabo-africaine, avec une toute petite nuance que je vais introduire rapidement. Donc là, c'est les limites de la base, les limites de rivage ici sont à peu près 5 millions d'années. Et évidemment, c'est cet animal-là qui va nous montrer le point de départ, si j'ose dire, à partir duquel vont se différencier les éléphants. Alors voilà, pour ne pas toujours parler de l'Afrique, parlons de la plaque arabo-africaine avec un site à Abu Dhabi, où on est ici, les paléontologues sont en train de dégager un crâne. Vous avez les deux défenses supérieures. Ici, le profil droit, la série dentaire. Bon, le crâne a été érodé sur la face dorsale. Et voici la face ventrale du crâne en cours de préparation avec ses molaires. C'est un jeune animal avec la première et la deuxième molaire en place, la troisième en cours de fabrication, le germe est dans l'alvéole. La caractéristique de ces animaux, c'est comme les gonfotères en général, la symphyse est allongée. Mais les défenses sont très longues, alors que chez les éléphants, les défenses disparaissent et, corrélativement, la symphyse est courte. On peut dire que le genre Stego-Tetrabelodon est le groupe frère des éléphantinés, c'est-à-dire les vrais éléphants, si j'ose dire. Donc voilà des molaires qui commencent à évoquer très fortement une molaire éléphantine, avec donc ces crêtes nombreuses, ça c'est une dernière molaire inférieure, et vous voyez ces petits tubercules intermédiaires qui sont présents chez tous les gonfotères, donnent à l'usure des crêtes des figures lancéolées et qui sont l'une des clés pour interpréter les différents types dentaires avec des chausse-trappes dont je vous dirai un mot à propos de l'origine des éléphants d'Afrique. Alors, un genre bien nommé, Primeléphas, le premier éléphas, a été une grande vedette de l'origine des éléphants dans les années 70, où il était représenté comme l'ancêtre, l'espèce Primeléphas gomphothéroïdes, c'était l'ancêtre des trois lignées d'éléphants, les mammouths, les éléphants du genre éléphas et les éléphants du genre loxodonta. Voilà une deuxième molaire pentalophodonte du genre Primeléphas. Bon, celle-là n'est pas si bien conservée, mais c'est pour vous montrer que quelquefois on se contente de ce qu'on a, toujours. Et cette image-là est maintenant complètement erronée, puisqu'on a découvert les premiers représentants des trois genres modernes, pourrait-on dire, d'éléphants, contemporains des stégotétrabélodons et des primiléphas, ce qui vieillit l'origine des éléphants, qui n'est plus pliocène mais miocène. Et nous arrivons maintenant à un tempo évolutif des éléphants qui est exactement le même que celui des hominidés. Et ce qui fait que l'association des uns et des autres est très intéressante du point de vue de la reconstitution des faunes et des milieux. Donc, sur une carte actuelle de l'Afrique, on voit où se trouvent les gisements à stégotétrabélodons et primeléphas. Si vous voyez, ces deux animaux sont toujours ensemble. On pourrait dire, mais après tout, c'est peut-être les mêmes, sauf que les primeléphas ont des mâchoires très courtes, sans défense. Donc, pour les caractères, pour une ressemblance globale, les molaires se ressemblent pas mal, mais on sait que les deux genres sont différents. Alors, la bizarrerie, c'est que dans le sud de l'Italie, on trouve un stégotétrabélodon, ce qui implique une connexion il y a 5 millions d'années entre Afrique et Italie du Sud, à moins qu'il y ait également des stégotétrabélodons dans cette zone, mais jusqu'à présent, on ne les a pas trouvés. Alors acceptons l'idée que pour l'instant, les éléphantinés sont strictement africains. Africains, enfin arabo-africains, puisqu'il y a donc l'animal dont on a vu le crâne en cours de dégagement à l'instant. Donc ici, nous sommes dans des gisements qui sont miocène supérieur, entre 5 et 6 millions d'années, et puis pliocène inférieur, 4,5-5 millions d'années, dans des niveaux tropicaux arides. Toujours le même environnement qu'il s'agisse du miocène inférieur ou du miocène supérieur. Alors, le mammouth, je le présente comme un éléphant moderne. Bon, les mammouths, les derniers mammouths se sont éteints il y a 4000 ans seulement, donc ils sont quasiment nos contemporains. Les mammouths trouvés à l'état congelé sont pratiquement des animaux vivants, pratiquement. On peut faire tout ce qu'on veut du point de vue étude des parties molles. Donc, ce ne sont pas vraiment des fossiles comme les autres. Je parle des trois genres d'éléphants de la même manière. Simplement, il faut retenir que les mammouths ne vivaient pas dans un environnement neigeux comme ça. Hein. Ils vivaient dans une steppe très riche, très froide, mais très sèche, avec peu de précipitations par rapport aux précipitations actuelles, d'où la présence d'une steppe du Portugal jusqu'au Kamtchatka, et non pas de toundra et de taïga. Alors, dans la nature actuelle, vous avez donc une petite différenciation de morphologie d'éléphants d'Afrique et d'Asie, mais qui ne va pas très très loin. Et depuis longtemps, on s'est dit que l'éléphant d'Asie et le mammouth étaient apparentés à cause de ce creux frontal, nasofronto-pariétal, qui est partagé par les deux genres, mais en fait, il est pratiquement certain maintenant que ce caractère est apparu indépendamment. Les premiers loxodontes et éléphas sont miocènes. Alors voilà les gisements concernant ces premiers éléphants modernes. Donc vous voyez, il y a plus de loxodontes que d'éléphas dans les archives. On va insister sur la contemporanéité de l'Afrique de l'Est, du Tchad et de l'Afrique du Sud. Donc c'était un petit événement lorsque on a décrit de ces gens modernes en Afrique. Alors, celui du Tchad, il nous intéresse tout particulièrement, hein, puisqu'il y a ce gaillard-là qui est responsable de toute cette affaire. Hein. Donc, TM-266, c'est important pour les hominidés, mais pour les amateurs d'éléphants aussi, puisque dans la faune de ce site a été décrit, donc, lorsque le site a été publié, l'oxodonta indéterminé avec ce barbarisme bizarre, Lucino Stage. Donc, je vais dire un mot. Donc, voilà le gisement qui a livré les plus anciens loxodontes. Alors, du point de vue de la faune, les paléontologues ont dit « Oh, ça, c'est probablement plus vieux que 5 millions d'années, peut-être 6-7. » Datation absolue, 6-8-7-2. Les paléontologues n'ont pas à être modestes, en l'occurrence, concernant l'âge de Tauros Ménale. Alors, les premiers loxodontes au Miocène, ça n'a pas été simple. En fait, je suis responsable de la première description d'un loxodonte au Kenya, dans des sites anciens, avec cette molaire qui était dans une mâchoire inférieure. Vous voyez que les tubercules qui sont intermédiaires entre les crêtes sont responsables de la forme losangique des crêtes, et c'est à l'origine de la description de l'oxodonta, mais la difficulté, c'est de reconnaître une usure due à la présence primitive d'un tubercule intermédiaire de l'usure strictement loxodonte. Ce n'est pas si simple, il faut qu'il y ait persistance de ces tubercules, mais aussi compression du reste de la crête, donc une forme relativement géométrique. Donc un peu plus tard, j'ai décrit les molaires supérieures que je pensais pouvoir être associées à ce type de molaire, mais décrire de nouvelles espèces sur quelques dents, je m'y refuse depuis pas mal d'années. Donc j'ai dit que c'était un stade évolutif qui correspondait à l'Ukéino, qui est une formation miocène au Kenya. Donc voilà, j'ai pensé que ceci était préfiguré à un sinus loxodonte, c'est-à-dire cette zone associée à une compression, une certaine géométrisation de la forme des crêtes. Et puis, donc, tout récemment, Sanders a décrit les éléphants d'Afrique du Sud, et donc cette fois n'a pas hésité à donner un nom, donc Kukei, pour ce fameux loxodonte, donc, qui vivrait entre 7 et 5 millions d'années, avec persistance ici des prémolaires, ça c'est la première molaire. Donc un caractère primitif, puisque chez les éléphants, les prémolaires ne se forment plus, seuls se forment les molaires de lait. Il n'y a plus de remplacement de molaires de lait par des prémolaires. Donc voilà, les premiers loxodontes sont miocène supérieur, maintenant tout le monde en est convaincu. Alors LFAS, là il y a un débat. Il y a un débat parce qu'il existe, à partir surtout de cette mâchoire qui appartient à un juvénile. Alors on peut jouer, mais assez peu, hein, sur l'extension de la symphyse par rapport à la cassure. Hein, vu la hauteur ici et ici, il n'y a pas beaucoup d'os qui manque, donc une symphyse totalement dépourvue de défense, des molaires très éléphantines par rapport aux éléphants pliocènes que l'on connaît, mais beaucoup moins hautes. Donc voilà, un éléphas très primitif dans un site, dans un contexte qui était largement dominé par Stegotetrabelodon et Primeléphas. Voilà l'éléphas qui est postérieur à Primeléphas, mais qui est contemporain de Stegotetrabelodon, et qui est plus ancien que des éléphants qui ne posent pas de problème au sens que tous les spécialistes s'accordent à les reconnaître comme premier représentant du genre éléphas. Donc voilà, éléphas nahuataensis, le plus ancien éléphas dans le Miocène supérieur d'Afrique, c'est un indice, mais ce n'est quand même qu'un seul, un seul spécimen. Il faut retenir que dans le genre éléphas, les paléontologues reconnaissent deux lignées, celle qui mène à l'éléphant d'Asie, et puis une lignée éteinte, pour laquelle on donne un nom de sous-genre, paléoloxodon, quelquefois on en fait même un genre à part entière, et qui se caractérise par une expansion très, très importante de l'avant des prémaxillaires, par un basculement vers l'avant de la région occipito-pariétale avec la réalisation d'une crête. On pense que ça se fait à l'intérieur d'une espèce du Pliocène supérieur et les faces requis, mais dans les niveaux les plus récents. Donc ça se ferait aux alentours d'un million d'années, le passage et les faces paléoloxodontes. Maintenant, on aborde et on terminera avec les mammouths. Alors, les points d'interrogation, c'est parce que les spécialistes ne sont pas d'accord sur la reconnaissance des espèces subplanifrons africanavus parce que les caractères sont contradictoires dans les différents sites qui ont livré les éléments de ces deux espèces. Donc c'est un véritable débat très très intéressant. Donc je vais vous montrer la problématique. On est tous d'accord pour dire qu'il y a des mammouths en Afrique et ce sont les plus anciens, donc peut-être pas aussi ancien, pas au-delà de 5 millions d'années par rapport à Elephas et l'Oxodonta, mais quand même assez ancien, sauf qu'ils sont très très mal connus, ces mammouths-là. Voilà la seule certitude concernant les mammouths africains. Bon, je suis un peu schématique en disant ça, mais enfin, disons que cette certitude-là, elle est en béton. C'est l'association d'une défense à double courbure, ça c'est la marque de fabrique du genre Mammutus, avec cette molaire qui ressemble à une molaire éléphantine de type primeléphas et éléphas, pas loxodonta, on est d'accord. Donc voilà d'autres dents qui sont attribuées au même Mammutus supplanifrons, mais on ne sait pas comment sont les défenses associées à ces molaires. Ce crâne-là a longtemps été cité comme un vrai mammouth, mais en fait, il n'est jamais arrivé à Addis Abeba. C'est un grand mystère, le devenir de ce crâne. Mais la courbure de ses défenses, elle est due uniquement à la taphonomie, c'est-à-dire à la déformation post-mortem. Donc on ne peut pas, sur cette photo, dire qu'on a affaire à un mammouth. On sait qu'on a affaire à un éléphant et rien de plus. Alors pourquoi un mammouth ? Ben, c'est que Camille Arambourg, le paléontologue, dans ses tout derniers travaux, avait décrit un crâne qui a été trouvé en Algérie, tout près de la frontière tunisienne, tout près du Chott Djerid. Et malheureusement, ce crâne, entre le moment où il a été trouvé et le moment où il est arrivé à Alger, il a été détruit par le transport. Donc, Arambourg a dessiné ce qu'il avait retenu de ce crâne. Arambourg connaissait bien les éléphants. Il avait insisté sur la défense qui était de type mammouth et la concavité ici du crâne. Donc on peut penser qu'il y avait un mammouth là, mais on ne peut pas vérifier ça. On ne peut pas vérifier ce mammouth là, et c'est tout ce qu'on en connaît, ce dessin. Donc il y a une légende du Mammutus africanavus, ça ne suffit pas pour asseoir l'existence, mais les caractères des mammouths à cette époque-là. En Algérie. Cette dent, je l'ai décrite dans les années 80 comme appartenant à Primeléphas, avec une variation sur l'allongement à l'arrière de la dent. Et mon collègue Sanders en fait un Mammutus. Donc vous voyez qu'il y a toujours des places à controverse sur ces questions, mais si c'est un Mammutus, à ce moment-là, il a entre 6 et 7 millions d'années, et on a à ce moment-là contemporanéité des trois genres moderne. Donc voilà le mammouth de Sibérie, le mammouth méridional qui apparaît en Eurasie il y a 3 millions d'années. Ça, c'est le squelette de mammouth tel qu'il était présenté lors de l'exposition mammouth du muséum de 2004-2005. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que là, le Pléistocène, le contexte climatique change totalement par rapport au contexte climatique de toutes les périodes précédentes. Mais il faut retenir que le passage des mammouths en Amérique du Nord, qui est lié aux fluctuations du niveau de la mer, implique plus un continent qu'un corridor. Alors, de temps en temps, les glaciers ferment complètement le passage de l'Alaska vers le reste de l'Amérique, mais pas toujours, ce qui fait qu'il faut vraiment avoir en idée qu'il n'y a pas d'Amérique du Nord et de Sibérie au Pléistocène supérieur. Il y a un continent qu'on appelle la Beringia. Là, l'évolution des mammouths, du point de vue des molaires, elle est connue depuis longtemps, plus de crêtes et des crêtes plus fines. Bon, je simplifie. Donc ça, c'est une forme intermédiaire que l'on admettait présente aux alentours de 500 000 ans pendant des décennies de description des mammouths. Mais l'évolution, elle est certainement bien plus compliquée que ces trois stades morphologiques, bien plus compliquée que ces trois espèces. En fait, l'évolution est de type équilibre ponctué. Maintenant, on pense que les mammouths méridionaux donnent Mammutus rodonteri depuis plus d'un million d'années, un million et demi, en Chine. Ensuite, on a des évolutions qui se font dans différentes régions. Donc, il y a de la diversification spatiale qui est vraisemblablement le moteur de l'évolution de ces animaux, beaucoup plus que des successions chronologiques. Donc le schéma devient extrêmement complexe, mais il est encore plus compliqué par les travaux les plus récents, à la fois des paléontologues qui donc vieillissent le Mammutus rodonteri, mais les molécularistes qui vont travailler sur les mammouths. Alors, les mammouths, je vais aller très très vite, la différence entre les mammouths et les éléphants est tellement ténue qu'en réalité, même s'il semble bien que les mammouths sont proches des éléphants d'Asie, sur 12 modèles évolutifs, 8 vont dans ce sens-là, mais il y en a 4 qui mettent le mammouth avec le loxodonte. Et bon, quels sont les modèles qui ont vraiment fonctionné dans la réalité? On n'en sait trop rien. Donc, en fait, un vrai problème qui évoque un problème qui est beaucoup plus familier, en plus compliqué encore, celui des chimpanzés, des gorilles et des hommes. On revient au mammouth avec les travaux moléculaires. Donc, ce qu'il faut retenir de cette image, à partir d'une souche ancestrale à tous les éléphants, c'est que le groupe des mammouths, ici, les mammouths noirs, sont tous nord-américains. En fait, ce travail, c'est un travail sur 160 individus de mammouths d'Eurasie et d'Amérique du Nord, sur de l'ADN mitochondrial. C'est le plus gros travail au point de vue quantitatif concernant les mammouths, et qui font que les mammouths européens, bon, les premiers mammouths sont européens, enfin eurasiatiques plutôt, sont également des haplotypes, c'est-à-dire des variants génétiques qui viennent d'Amérique du Nord, ce qui fait que l'image évolutive est totalement différente, c'est qu'on a des mammouths eurasiatiques qui, effectivement, passent en Amérique du Nord, des périodes d'isolement et de nouveau des contacts par un véritable continent. Mais le problème, c'est que les molécularistes ont des calibrages chronologiques qui souvent nous perturbent, nous, paléontologues, puisque actuellement, on pense que les échanges Europe-Amérique ont 800 000 à 1 million d'années. Mais ça change tout parce que les premiers Mammutus primigenius en Sibérie, il y a 500 000 ans, c'est déjà, par rapport à ce qu'on disait il y a 20 ans, c'était déjà difficile à admettre pour beaucoup de spécialistes qui travaillent uniquement en Europe occidentale, puisqu'il y a quand même un hiatus assez considérable entre l'Europe de l'Est, l'Asie et puis l'Europe occidentale. Mais maintenant, c'est très différent, puisque 800 000 à 1 million d'années pour trouver des haplotypes de Mammutus primigenus, si ces hypothèses sont justes, cela implique que les fossiles que l'on trouve dans cette période-là sont des vrais mammouths laineux. Donc le mammouth laineux a 800 000 à 1 million d'années. Donc Trogonteris, c'est de la même espèce biologique que Mammutus primigenus. Alors là, gros débat sur effectivement la systématique paléontologique des taxons et les hypothèses moléculaires, mais toujours est-il que on aurait donc développement massif des populations nord-américaines qui remplacent progressivement ou brutalement, comme on veut, puisque là, tout est affaire d'échelle géologique, les populations eurasiatiques. Donc là, pour le coup, on a véritablement un vrai problème, non pas un conflit, mais un débat concernant le tempo. C'est pourquoi, actuellement, j'en reste toujours à cette image-là, et celle-là, je ne la présente jamais encore absolument seule. Voilà, j'en ai fini pour cette rapide histoire des proboscidiens.